10 minutes chronique. En 1977, en plein mouvement féministe, apparaissait sur les écrans de la télévision un éphèbe blond en costume rouge pailleté, entouré de danseuses court-vêtues, au milieu d'un décor indéfinissable, qui entonnait à pleine voix. Un public de téléspectateurs et d'auditeurs, de clubbeurs, découvrait ce qui allait devenir un tube pendant plusieurs mois et un succès commercial vendu à plus de 250 000 exemplaires. Compositeur et interprète, Patrick Juvet, parolier, Jean-Michel Jarre. Que nous le voulions ou non, nous les femmes et des hommes, ce titre est devenu un objet de l'histoire culturelle. Que disait-il ? Elles portent un blouson noir, elles fument le cigare, font parfois un enfant par hasard, et dès que vient le soir, elles courent dans le néant vers des plaisirs provisoires. Où sont les femmes qui ont des rires pleins de larmes? Auraient-elles perdu leur flamme? Elles ne parlent plus d'amour, elles portent les cheveux courts et préfèrent les motos aux oiseaux. Elles ont dans le regard quelque chose d'un robot qui étonne même les miroirs. Auraient-elles perdu leur flamme ? Si cela n'était pas anti-féministe, il faudra le prouver. Et bien sûr, les féministes des années 70 qui avaient l'oreille fine ne s'y sont pas trompées. Elles ont fustigé cette lamentation qui faisait se déhancher toute une population. Patrick Juvet a, paraît-il, reçu des lettres d'insultes et des menaces. C'est drôle, on se croirait aujourd'hui. Tout ça pour dire que tout change et que rien ne change, ou si peu. Pendant que la chanson s'incrustait dans l'espace sonore, paraissait le premier numéro du journal féministe Histoire d'elle, en novembre. Sorcière, autre publication féministe, fêtait son deuxième anniversaire. Le mensuel Femmes en mouvement publiait son numéro 1. Le journal militant Femmes travailleuses en lutte sortait son 12e numéro en janvier. Le numéro 1 de Questions féministes, édition tierce, paraissait en novembre, ainsi que le numéro double 17-18 des Cahiers du Griffe en septembre et Alternative numéro 1 Face à femmes en juin. Et bien d'autres publications fleurissaient, avaient déjà fleuri, sans parler des études critiques, dont le plus célèbre est Du côté des petites filles de Elena Giannini Bellotti, paru en 1974 aux éditions des Femmes. Et savez-vous quel était le premier titre du numéro 12 de Femmes, édité par le CODIF, Centre d'information féminin ? Le voici. Quand une femme dit non, c'est non. Je vous l'avais bien dit, on se croirait aujourd'hui.
Changez tout, votre monde ne tient pas debout. Changez tout, changez tout.
1977, 2007, 30 ans ont passé. En 2007, paraissait le roman de Rachel Tusk, traduit de l'anglais par Justine de Mazières. À propos de ce livre, les avis ont été divers. Les unes, ou peut-être les uns, l'ont trouvé d'un ennui mortel, négatif. Il ne s'y passe rien. Ces esclaves du train-train quotidien y traînent leur ennui et leur épuisement. Il n'y est jamais question de joie ou de bonheur. Les autres l'ont trouvé incisif, décrivant avec finesse un sujet tabou, l'aliénation domestique. À la lueur de ces critiques contrastées, écoutons quelques passages d'une émission de 10 minutes chronique diffusée en janvier 2022, consacrée au roman de Rachel Tusk. En 8 chapitres, C'est le récit de la journée de femme trentenaire, mère de famille, de la classe moyenne aisée d'une banlieue résidentielle en Angleterre. Un récit féroce où se dévoilent les pensées de mères enchaînées à leurs enfants, leur maison, leur mode de vie. Rachel Cusk, sans y ajouter le moindre jugement, pointe le mal-être de vies ancrées dans un quotidien de façade où l'esprit tourne en rond. Ainsi plongée dans les activités de Juliette, Amanda, Christine, Maisie, nous les suivons dans la comédie qu'elles jouent les unes envers les autres. Très peu d'hommes apparaissent, ou bien en creux, et ce sont leurs maris. Dans ce cercle très étroit de relations, surplombant les divers moments de la journée, s'occuper des enfants, se retrouver entre femmes, préparer un dîner, s'imposent leurs sombres pensées, les monologues intérieurs sur ce qu'elles sont en train de vivre, leur sourde désolation de ne pouvoir être ce qu'elles voudraient être, c'est-à-dire plus sûres d'elles et plus sophistiquées. C'est comme une infinie lamentation d'où il ressort que la seule solution ce serait d'échapper à leur rôle de mère, d'épouse, de tout ce qui les contraint. Elles ne voient dans leurs enfants que de petits êtres encombrants. Leurs maris leur sont devenus des étrangers, vaguement menaçants. Elles se sentent jugées et humiliées par la société. Elles voudraient autre chose. Mais quoi? Pour aller où? Leur rêve n'est pas de construire une autre vie, mais d'échapper à ce qu'elles vivent. Sous ce ciel plombé, les mères emmènent leurs enfants à l'école, bataillent avec les poussettes des plus petits, tout en imaginant avec lassitude la suite de leur journée. Cependant, pour distraire leur morosité, et parce que c'est ce qui se fait, elles tentent d'instaurer une forme de vie sociale avec d'autres mères. Le cœur du roman est ce que l'on pourrait appeler une virée de filles. Où ça? Au centre commercial de Marywood, à 5 km. Cet épisode, à la fois hilarant et cruel, révèle un constat acide, ravageur, au-delà du cliché « femmes entre elles ». Cette sortie ne ressemble qu'à une plongée dans la laideur, l'insignifiance, mais elle comble un vide, ce besoin d'exister à travers les autres, avec d'autres semblables. Peu importe qu'essayer des robes dans le temple de la consommation soit bien loin de la définition du bonheur, si l'on veut y croire. Prise trop vite par la maternité et toutes les charges d'une femme au foyer, elles n'ont pas eu le loisir de réfléchir aux codes d'un environnement qu'elles idéalisent. Et elles sont dans l'incapacité de critiquer ces codes, les rejeter, les combattre. Confusément, elles le sentent, mais n'ont pas le temps pour cela. Elles n'imaginent même pas qu'il existe d'autres vies pour les femmes que celles à laquelle elles sont aliénées. Alors elles miment ce qu'elles croient être bien de faire, sans y parvenir. Elles en souffrent, ce qui les rend souvent agressives, mesquines. La fin du livre, comme une apothéose catastrophique, raconte le dîner organisé par Christine. Or, laisser pénétrer le monde extérieur dans leur foyer devient un cauchemar, que ce soit pour une simple invitation à prendre un café ou un dîner, tout doit être parfait, et c'est terrifiant. Était-ce de cela qu'il était question quand on parlait de l'inégalité des sexes? Était-ce cela le front, la ligne de bataille? Elle n'avait jamais vu son père, ne serait-ce que cuire un œuf. Mais sa mère n'avait jamais tendu la pelouse, ni réparé les placards de la cuisine non plus. Christine n'avait jamais cru bon de faire le tri, alors que tout lui semblait être du pareil au même. Mais maintenant, elle se demandait si ce n'était pas exactement cela qui vous maintenait à votre place, cette acceptation des choses, de sorte que vous tourniez continuellement en rond et n'arriviez jamais nulle part. Si vous acceptiez les choses, où aller quand elles devenaient inacceptables? À qui le dire? Il fallait de la place pour le changement. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, après le mouvement MeToo, qu'est-ce qui a changé? Quel roman sur le même sujet pourrait-on écrire? A déjà été écrit. Je vous donne rendez-vous le 21 mai, ici, sur Westrack Radio, dans Viva Culture, pour un autre épisode de Où sont les femmes?
Changez tout, votre monde ne tient pas debout. Changez tout, changez tout.